Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui le jour J, le coup d'envoi officiel de la campagne électorale. 21 candidats sont en lice. Une campagne qui s'ouvre sur fond de crispation puisqu'une partie des candidats craint des fraudes avec les machines à voter électroniques et les 6 à 10 millions de personnes inscrites sur le fichier électoral sans empreinte digitale. Le volet logistique suscite également des inquiétudes. Toute la question aujourd'hui est de savoir si le matériel sera bel et bien déployé en temps et en heure sur l'ensemble du territoire. En tout cas, hier, le président de la commission électorale, Corneille Nanga, a répété que les élections auront lieu à la date fixée. Vos réactions, vos témoignages nous intéressent. 33 9 693 693 70. Je lirai évidemment quelques-unes de vos réactions postées sur la page Facebook de l'émission. D'ailleurs, le débat, je le constate, a déjà commencé hein, sur notre page Facebook, donc continuez entre vous à dialoguer et ensuite on se retrouvera évidemment sur l'antenne de RFI dans une demi-heure. Mais d'abord, d'ici là, vos questions comme tous les matins. Des questions pour commencer sur Madagascar après la proclamation des résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Bonjour Serge.
Bonjour Juan et bonjour à tous vos auditeurs.
Merci, vous nous appelez de Tchang, c'est au Cameroun. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
En effet Juan. Suite au décompte des voix du tour des élections présidentielles à Madagascar, le candidat arrivant en pole position, Ange Raduel, a déclaré des manipulations de la part de la CENI. De quelles preuves celui-ci dispose pour avancer de telles allégations?
Oui, c'est vrai qu'Ange Raduel ne se contente pas d'être arrivé en tête du premier tour. Il conteste effectivement les résultats publiés par la commission électorale. Bonjour Sarah Teto.
Bonjour.
Correspondante de RFI à Madagascar. Alors, l'ancien président est d'accord avec la commission électorale sur le fait qu'il soit premier. En revanche, il conteste les chiffres. Quelles sont ses preuves?
Oui, alors les preuves qu'il détient, ce sont celles compilées par son équipe qui a dépouillé, en parallèle de la CENI, les procès-verbaux récupérés par ses observateurs présents dans plus de 80% des bureaux de vote le jour du premier tour. Alors, Ange Raduel dénonce trois manipulations principales, la minoration du nombre de voix qu'il a obtenu, la redistribution de ses voix défalquées à des petits candidats et la majoration du nombre de suffrages exprimés. Tout cela, dit-il, dans un seul but, l'empêcher d'atteindre le cap des 50% de suffrages obtenus, synonyme évidemment de victoire dès le premier tour. Alors lundi, dans son QG, le candidat a présenté sur écran géant des exemples de PV présentant des anomalies. Il s'est notamment étendu sur le cas de Fianarantsoa 1, où le nombre de suffrages exprimés aurait été augmenté sciemment. Un faux, rétorque dans la soirée la CENI par voie de communiqué, expliquant par un jeu de date que le PV présenté à la presse et par le clan Raduel n'est pas, à cause de sa date, un original.
Oui, en tout cas, effectivement, lundi, devant ses partisans, l'ancien président a scandé « Stop au détournement des votes du peuple ». Alors, Sarah Teto, Ange Raduel n'est pas le seul à avoir porté plainte. Plusieurs autres candidats ont déposé des recours, jugeant que le scrutin avait été entaché de bon nombre d'irrégularités.
Oui, tout à fait, Juan. Parmi ceux-là, on citera notamment le président sortant, Erad Normampian, qui lui demande carrément l'annulation du scrutin au motif de détournement de vote. Et enfin, le second qualifié, Marc Ravalomanana, a lui aussi déposé plus de 200 requêtes mardi à la HCC, requêtes qu'il a finalement choisi de retirer hier, ceci dans le but de préserver, je cite, l'intérêt suprême de la nation et d'éviter les troubles.
Oui, Serge, vous aviez une deuxième question.
Effectivement, Juan, le candidat Ange Raduel a introduit des recours en ce qui concerne pour une audition du logiciel de décompte. Peut-il espérer gain de cause lorsqu'on sait que ce dernier logiciel avait déjà fait l'objet d'une expertise et qu'aucune anomalie n'avait été relevée?
Ah, bonne question, effectivement, Sarah Teto. Ange Raduel a affirmé que ce logiciel de traitement de la commission électorale était truqué.
Oui, et donc dans une requête, comme le disait Serge, une requête qu'il a adressée à l'HCC, il a demandé un nouvel audit de ce logiciel. Alors la HCC peut-elle lui donner gain de cause? C'est possible, dans le sens où la pression sociopolitique est très forte en ce moment à Madagascar. et où candidats comme partisans attendent de la HCC qu'elle lève les doutes sur les anomalies du scrutin. Alors jusqu'à présent, dans ses précédentes décisions, la HCC, je le rappelle en outrepassant d'ailleurs un peu son rôle de juge, a veillé à privilégier la paix sociale et la stabilité politique. Alors, à défaut d'annuler le scrutin, comme certains le demandent, elle pourrait en effet imposer à la CENI un nouvel audit de son logiciel, et ce ne serait pas trop se mouiller que de demander cela, dans la mesure où la CENI, qui défend quand même son logiciel, a déjà laissé entendre qu'elle souhaitait effectuer un autre audit externe d'ici au second tour, si le second tour, je le rappelle, est confirmé, et ça devrait l'être la semaine prochaine par la HCC.
Sarah Tetteau, en direct d'Antananarive, correspondante de RFI à Madagascar. Vous qui êtes sur place à Madagascar, appelez-nous, profitez de la libre antenne demain pour réagir justement à ces polémiques qui secouent la classe politique malgache après la proclamation des résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Serge, on vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir appelé de Chang. Il est 9h16 ici à Paris. D'autres questions à la rédaction. Évariste, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute votre équipe.
Vous êtes en République démocratique du Congo, vous nous appelez de Goma, et vous avez des questions concernant les conséquences du réchauffement climatique.
Juan, un groupe d'experts de l'ONU sur le climat publie un rapport dans lequel 8 villes africaines figurent parmi les 10 villes menacées par le changement climatique. Du coup, je suis curieux de savoir comment ces experts ont-ils procédé pour aboutir à tels résultats, et qui a préconisé ces rapports pour lutter contre ce fléau.
Alors, ce n'est pas un groupe d'experts qui a publié ce rapport, qui fait beaucoup parler. C'est un cabinet britannique, Verisk Maplecroft, un cabinet d'analyse de risque. Et effectivement, vous avez raison, parmi les 10 villes les plus menacées par le changement climatique dans le monde, 8 sont sur le continent africain. Bangui, Monrovia, Kinshasa, Lagos ou encore Luanda. Bonjour Aram Beng.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. Vous avez lu justement ce rapport consacré à la vulnérabilité des villes face au changement climatique. On voit bien que les grandes villes africaines sont particulièrement concernées. Comment les experts ont-ils procédé pour obtenir ces résultats?
Eh bien, Juan, pour aboutir à ces résultats, les experts ont étudié principalement deux facteurs, c'est-à-dire la croissance démographique des villes et leurs données économiques. Sachant que 86 des 100 villes qui enregistrent la plus importante augmentation de leur population sont sur le continent africain, les spécialistes ont donc fait des projections qui ont abouti à ces résultats que nous connaissons. L'augmentation rapide des populations urbaines prévue à l'horizon 2035 va encore multiplier les risques dans les villes à faible revenu. Les conséquences des changements climatiques, on va y revenir, vont obliger des millions de personnes à affluer vers les mégalopoles africaines tout simplement pour survivre. Malheureusement, quand ces populations arrivent dans les villes, elles font face à d'énormes difficultés économiques et sanitaires en plus de l'insécurité et de la violence qui s'y développe. Alors, les cas des capitales de la Centrafrique, du Libéria, de la République démocratique du Congo sont cités en exemple parmi les 79 villes africaines les plus à risque. Un exemple concret, la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, avec ses 13 millions, plus de 13 millions d'ailleurs d'habitants actuels, elle est déjà régulièrement confrontée à d'énormes inondations. Alors d'ici une trentaine d'années, cette population de Kinshasa va doubler, on parle de 26,7 millions, et du coup les problèmes d'insécurité, d'habitat ou d'accès à l'eau potable seront encore plus récurrents.
Comment expliquer à Rambeng cette croissance rapide des mégapoles africaines et notamment par exemple la ville de Kinshasa, la capitale congolaise dont vous nous parliez à l'instant?
Alors, il y a le dérèglement climatique qui entre en jeu. Il occasionne des épisodes de sécheresse de plus en plus longs, ce qui pousse les populations des zones rurales vers les villes. On appelle ça l'exode rural. Alors, cet afflux massif entraîne une suroccupation des sols, même les zones qui ne sont pas habitables. Avec la sécheresse, des zones qui sont proches des villes africaines, qui étaient jadis inondables, se sont asséchées. Alors, du coup, les personnes poussées à l'exode s'y installent, mais à la première forte pluie qui s'abat sur ces zones, Mais c'est la catastrophe.
Ouais, voilà donc pour le constat dressé par ce cabinet d'analyse britannique. Évariste nous demandait ce que préconisait ce rapport pour lutter contre ce fléau. Visiblement, rien.
Ben non. Malheureusement, Évariste va être déçu peut-être. Aucune préconisation, effectivement. Le rapport est fait uniquement pour alerter les pays, les autorités, afin qu'ils se préparent à faire face à des événements plus fréquents, voire plus sévères dans les années à venir. Comment? Peut-être en mettant en place des plans d'extension urbaine adéquats qui anticipent l'augmentation rapide des populations. Les experts insistent beaucoup sur ce point qui est de doter les villes africaines de plans de développement. C'est très important car cela évite que des habitations se construisent un peu n'importe comment et n'importe où. Il n'est pas rare de voir Juan émerger autour des villes africaines des constructions sauvages, même dans des zones classées non habitables. Comme je le disais tout à l'heure, les populations urbaines, rurales qui arrivent en ville s'installent sur des terres de rétention d'eau de pluie qui se sont achetées, mais avec le dérèglement climatique, des épisodes de fortes pluies peuvent se multiplier et entraîner des inondations malheureusement meurtrières. Il faut espérer, Juan, que les autorités prennent la mesure du danger et mettent d'ores et déjà en place des infrastructures qui permettent de faire face d'ici une trentaine d'années aux risques liés au réchauffement climatique. Autre levier, Juan, sur lequel les autorités peuvent agir, c'est le développement des zones rurales. Comment? En y faisant la promotion d'activités économiques pour éviter l'exode vers les mégalopoles africaines.
Voilà quelques préconisations pour essayer de faire face au réchauffement climatique. Évariste, a-t-on répondu à vos questions?
Correctement, oui, Juan, merci.
Eh bien, merci surtout à Aram Beng d'être venu ce matin dans ce studio. À bientôt.
Merci.
Aram, merci Évariste, bonne journée. À Goma, 9h22 à Paris, vos questions nous intéressent, tous les sujets nous intéressent, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de sujet tabou. Hein. 33 9 693 693 70. Franck, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous avez contacté de Côte d'Ivoire. Vous êtes à Abidjan et vous souhaitez revenir sur l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Effectivement, Juan. Juan, le Washington Post a publié une enquête de la CIA désignant le prince Mohamed Ben Salman comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Alors, j'aimerais savoir si les États-Unis vont prendre des sanctions contre le prince Mohamed Ben Salman.
Ah, les États-Unis et évidemment Donald Trump. Hein. David Rigoleros est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Enseignant-chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Malgré les révélations du Washington Post, on a comme l'impression, David Rigoleros, que Donald Trump veut ignorer les conclusions de la CIA qui, rappelons-le, est convaincu que le prince héritier Mohamed Ben Salman a vraiment ordonné l'assassinat de ce journaliste.
Oui, alors le président Donald Trump avait annoncé qu'il se prononcerait en début de semaine, c'est ce qu'il a fait. Il a considéré qu'il n'y avait pas de ce qu'on appelle de smoking gun, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'absolument certain concernant pour incriminer la personne du prince héritier. Il a évoqué peut-être pas, et donc il accorde finalement un bénéfice du doute, même si le rapport de la CIA qui a filtré effectivement allait dans ce sens. Il a ajouté d'ailleurs tout dernièrement pour justifier sa position, il a rappelé évidemment les contrats militaires, les 500 000 emplois américains, la question pétrolière, le rôle fondamental de l'Arabie Saoudite par rapport à l'Iran, et il a explicitement signalé que dans tous les cas, c'est sous-entendu, même s'il devait y avoir une potentielle responsabilité du prince héritier, la relation concerne le royaume d'Arabie Saoudite et pas une personne. Et que les États-Unis entendent rester un partenaire inébranlable, je cite,
oui, de l'Arabie Saoudite
pour les raisons évoquées.
Mmh. Inébranlable, effectivement, cette relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Rappelons tout de même que les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre 17 Saoudiens impliqués dans cet assassinat. On sent au Congrès américain un vent de colère. On voit bien que certains parlementaires voudraient que Donald Trump aille plus loin tout de même dans les sanctions.
Ah oui, c'est incontestable, y compris des gens de son propre camp comme Lindsey Graham, qui a été très très virulent justement par rapport à l'affaire Khashoggi, en considérant qu'il ne pouvait plus discuter personnellement avec le prince héritier. Et donc il y a une logique bipartisane qui s'est mise en place d'ailleurs depuis octobre, pour pousser le président à prendre des sanctions. Il est obligé de le faire contre les 17 exécutants. Pour l'instant, il se refuse à aller au-delà. Il a dit d'ailleurs que le Congrès était libre d'adopter un certain nombre de mesures et que lui-même agirait en conséquence en fonction de ce qu'il estime être l'intérêt et la sécurité nationale américaine. Ouais. Donc on voit que la passe d'armes avec le Congrès peut effectivement amener un certain nombre de problèmes.
Ouais, il y a une mobilisation bipartisane, autrement dit, on voit bien des parlementaires démocrates et républicains qui font face à Donald Trump sur ce dossier. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose. Le réseau téléphone s'était dégradé sur la fin, mais on a compris évidemment l'essentiel de vos explications. Pierre-Olivier, journaliste au service France de RFI, est avec nous. Il nous rejoint. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions sur la fronde en France, la fronde contre l'augmentation des taxes sur les carburants. Bonjour Conan.
Oui, bonjour Juan, bonjour Olivier.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, en effet, depuis le samedi, il y a des mouvements de grève liés à l'augmentation des taxes sur le carburant. Cette taxe-là qui servira selon les autorités à la transition écologique. Donc je voudrais savoir où est-ce qu'il ira toute cette bagatelle de somme-là, hormis dans la transition écologique.
Alors,
et la deuxième question,
oui,
est de savoir pourquoi les manifestants se sont accaparés du gilet jaune comme symbole.
Ah oui, effectivement, c'est une bonne question et on comprend que vous la posiez, vous qui nous écoutez à l'étranger. Pierre-Olivier, quand on fait le plein, on remplit évidemment son réservoir, mais on remplit en même temps les caisses de l'État. On va revenir sur cette augmentation dont parle Conan, augmentation qui est prévue à partir du 1er janvier 2019. De quoi s'agit-il ?
Alors, toute l'année déjà, les taxes ont fortement augmenté, le prix du carburant a fortement augmenté et ça va continuer dès le 1er janvier prochain, plus 4 centimes par litre d'essence, plus 7 centimes par litre de diesel, et cela quelle que soit l'augmentation ou la diminution du prix du baril. Alors cela semble un peu étrange, on va essayer de comprendre rapidement pourquoi est-ce que ces taxes ont augmenté quel que soit le prix du baril. Et bien pour bien comprendre, si l'on prend par exemple un litre d'essence à 1 euro, c'est un peu le rêve, ce n'est pas le cas, mais ça permettra de comprendre plus facilement. Sur 1 euro d'essence que vous achetez à la pompe, 33 centimes seront pour les répercussions justement de la hausse du prix du baril, pour l'achat au pays producteurs de pétrole de l'essence ou encore pour les marges des stations-service, 33 centimes. Mais les 66 autres centimes, donc les deux tiers de ce prix à 1 euro le litre, ce sont en fait des taxes et uniquement des taxes qui, elles, viendront sur le budget de l'État.
Et si l'on s'attarde un peu sur les taxes, il y en a deux principales, hein ?
Absolument. Il y a la TICPE qui est l'ex-TIPP. C'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Elle représente 40% des taxes. C'est, si on revient à notre litre à 1 euro, 28 centimes sur ce litre. Et puis, la deuxième taxe la plus importante, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Celle-là, les Français la connaissent puisqu'ils la payent quasiment sur tous les produits.
C'est là la principale, le principal impôt, hein, la TVA en France. Où ira concrètement l'argent de ces taxes ?
Alors, l'argent, juste avant peut-être voir combien cela rapporte.
Oui.
En 2018, la TICPE a rapporté à elle seule 34 milliards d'euros, bien sûr. Alors, pour vous donner une idée de ce que représente 34 milliards d'euros, eh bien, le premier budget de l'État en 2018, c'est celui de l'éducation nationale et ça a coûté à l'État 137 milliards d'euros. Donc vous voyez, 34 milliards d'euros rapportés grâce à l'argent du pétrole, c'est énorme, c'est presque un quart du premier budget de l'État qui est celui de l'éducation. Alors, où va aller cet argent ?
Est-ce que cet argent va à la transition écologique comme l'affirme le gouvernement ?
Alors non, pas vraiment. Sur les 38 milliards d'euros qui seront récoltés l'année prochaine grâce à l'augmentation de ces taxes, eh bien, comme on vient de le dire avec l'éducation nationale, beaucoup de cet argent ira à l'éducation, pour les hôpitaux, pour la police, pour l'aide sociale. Presque 31 milliards sur les 38 milliards qui seront récoltés. Et justement, pour la transition écologique, pour la question de Conan, seuls 7 petits milliards, entre guillemets, iront à la transition écologique sur les 38 milliards. Et c'est justement ça que les Français ont un peu du mal à comprendre, parce que d'un côté, on leur explique que cet argent va aller à la transition écologique ou qu'elle va servir à leur apporter plus de services publics à côté de chez eux. Mais le problème, c'est qu'ils ont l'impression, eux, les Français qui payent plein pot cette essence, de voir les services publics aller de plus en plus loin et la transition écologique être moins efficace que ce qu'on leur promet, en tout cas.
Et les Français étaient nombreux samedi dernier, hein, 290 000 d'entre eux avaient enfilé ce fameux gilet jaune. Conan nous demandait pourquoi s'être accaparé le gilet jaune comme symbole.
Alors c'est très simple, hein, en quelques mots, c'est simplement parce que il y a 4 ans à peu près, ça a été obligatoire d'avoir dans sa voiture un gilet jaune et un triangle de signalisation au cas où on tombe en panne. En fait, si jamais la voiture tombe en panne au milieu de la route, il faut pouvoir sortir du véhicule, aller prévenir les secours, etc. Et tout ça sans risquer de se faire écraser. Donc on met son gilet jaune et on pose un triangle de signalisation.
Et si vous avez un gilet jaune, c'est que vous êtes forcément automobiliste.
Absolument.
Et donc, par ricochet, pénalisé peut-être par l'augmentation des taxes sur le carburant. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, d'être venu répondre à Conan. On rappelle que les gilets jaunes ont bel et bien l'intention de bloquer Paris samedi dernier. On aura évidemment l'occasion de vous en parler. Restez avec nous tout de suite, le journal.